Là-dessus, mon cher Créton, il n'y a pas un des assistants qui puisse s'empêcher d'admirer ce raisonnement. Mais Eutydème et Dionysodore se prirent à rire et à éclater au point qu'on eût cru qu'ils en allaient mourir. À la vérité, les amis d'Eutydème battaient des mains à tout ce qu'ils avaient dit auparavant. Mais ici, les colonnes du lycée semblaient elles-mêmes transportées de joie et leur applaudir. Pour moi, mon étonnement était tel que j'avouai n'avoir jamais vu des hommes aussi habiles. Et captivé par leur sagesse, je me sentis porté à leur prodiguer les éloges. Heureux mortels, leur dis-je, quel admirable talent d'achever une affaire si difficile en si peu de temps. Dans vos discours, Eutydème et Dionysodore, il y a bien de belles choses. Mais ce qui les surpasse toutes, c'est que vous ne vous souciez guère de la plupart des hommes sérieux surtout, et de ceux qui passent pour valoir quelque chose. Vous ne considérez que ceux qui vous ressemblent. Car je sais certainement que peu de gens aiment vos discours, et ce sont ceux qui vous ressemblent, tandis que les autres en font si peu de cas. Qu'ils auraient, je suis sûr, plus de honte de réfuter les autres par de tels moyens que de se voir convaincus et réfutés eux-mêmes. J'y trouve encore cela de poli et de tout à fait aimable, que quand vous dites qu'il n'y a rien de beau, ni de bon, ni de blanc ou quelque autre semblable, et que nulle chose ne diffère d'une autre, alors, il est vrai, et vous vous en glorifiez avec raison, vous fermez la bouche aux autres. Mais en même temps, vous ne la fermez pas seulement aux autres, mais aussi à vous-même, ce qui est plein de grâce, et nous adoucit ce qu'il peut y avoir de pénible dans ces discussions. Le plus admirable encore, c'est que vous avez arrangé et imaginé les choses d'une manière si ingénieuse qu'en moins de rien, tout homme peut en être instruit. Car j'ai remarqué qu'en un instant, Thésippe a su vous imiter. C'est un mérite de votre science de pouvoir si promptement enseigner ces mystères, mais il n'est guère convenable de disputer en présence de beaucoup de monde. Et si vous me voulez croire, gardez-vous de parler devant une grande assemblée, afin qu'on ne vous dérobe point votre secret sans vous en savoir gré. Ne disputez qu'entre vous seul, ou si jamais vous le faites avec un autre, que ce soit pour de l'argent. Même, pour bien faire, vous avertiriez vos écoliers d'en user de la sorte, et de n'en parler qu'entre eux ou avec vous, car la rareté au tidem met le prix aux choses, et l'eau, comme dit Pindar, se vend à vil prix, quoiqu'elle soit ce qu'il y a de plus précieux. Au reste, veuillez nous admettre Cnias et moi au nombre de vos disciples. » Après ces mots et quelques autres semblables, Criton, nous nous séparâmes. Vois donc si tu veux prendre avec nous des leçons de ces étrangers. Ils promettent d'apprendre leur art à quiconque veut les payer. Ils n'excluent aucun esprit ni aucun âge, et même, ce qu'il est bon que tu saches, ils assurent que rien n'empêche celui qui s'est adonné aux affaires d'apprendre facilement leur art. « Véritablement, Socrate, j'aime beaucoup à entendre et voudrais bien apprendre quelque chose. Mais je crains d'être du nombre de ceux qui ne ressemblent pas à Eutydème et qui, comme tu l'as dit, auraient moins de honte de se voir réfuter que de réfuter eux-mêmes par de tels moyens. Ce serait folie à moi d'entreprendre de te donner des avis. Cependant, je veux te raconter ce que j'ai entendu. Comme je me promenais, un de ceux qui venaient de quitter votre assemblée s'approcha de moi. C'est un homme qui prétend être fort habile, et du nombre de ceux qui excellent dans les discours judiciaires. « Oh, Criton, me dit-il, tu n'as pas entendu ces deux sages ?»« Non, par Jupiter, lui répondis-je, la foule ne m'a permis d'approcher assez pour entendre. »« Ils valent pourtant bien la peine d'être entendus, me répondit-il. »« Pourquoi, répliquai-je, tu aurais entendu disputer les hommes les plus habiles maintenant dans ce genre ?»« Mais que t'en semble, lui demandai-je, à moi, répondit-il. » Il me semble qu'on ne leur entend jamais dire que des bagatelles et qu'ils emploient tout leur esprit en badinage. Ce sont ses propres paroles. Toutefois, lui dis-je, la philosophie est une belle chose. Oui, une belle chose, me répondit-il. Elle n'a aucune valeur. Et si tu avais été là tout à l'heure, tu aurais eu honte pour ton ami. Il était assez fou pour vouloir se livrer aux leçons de ces hommes qui se soucient peu de ce qu'ils disent et s'en prennent à chaque mot que le hasard leur offre. Et ceux-ci, comme je l'ai dit, sont en ce genre les plus habiles de notre temps. Mais à te dire la vérité, Criton, la philosophie et ceux qui s'y adonnent sont tout à fait frivoles et ridicules. Malgré cela, je ne trouve pas, Socrate, que ni lui, ni qui que ce soit ait raison de blâmer cette étude. Mais de disputer publiquement avec ces sortes de gens, c'est ce qu'il m'a paru blâmer avec raison. Ce sont, Criton, des hommes très singuliers. Cependant, je ne sais pas encore trop qu'en dire. Mais qui est cet homme qui te rencontra et blâma la philosophie? Est-ce un orateur habile à plaider une cause devant les tribunaux? Ou un de ceux qui y envoient les autres, un faiseur de harangues dont se servent les orateurs. Non, par Jupiter, ce n'est point un orateur, et je ne crois pas qu'il ait jamais paru devant un tribunal. mais on dit qu'il s'y entend parfaitement et qu'il sait composer d'excellents plaidoyers. J'entends bien maintenant, et j'allais te parler moi-même de ces gens-là. Ce sont ceux que Prodicus plaçait entre le politique et le philosophe. Non seulement il croit être les plus sages de tous, mais aussi paraître tel à la plupart des hommes, et que les philosophes seuls empêchent que leur réputation ne soit universelle. Il s'imagine qu'il remporterait sans contredit la palme de la sagesse s'il pouvait décrier les philosophes comme tout à fait indignes d'estime. Dans leur opinion, ils sont bien les plus sages, mais dans les discussions particulières, quand ils y sont réduits, ils craignent d'être battus par ceux de l'école de Tidème. Ils croient être sages comme il convient, car s'occuper un peu de la philosophie et un peu de la politique, c'est justement ce qui convient, puisque ainsi, ils participent de toutes les deux autant qu'il est besoin, et que placés hors des dangers et des disputes, ils peuvent goûter tranquillement les fruits de leur sagesse. Eh bien, Socrate, que penses-tu de ce qu'ils disent? Il semble pourtant que leur discours a beaucoup d'apparence. C'est vrai, mais comme tu dis, plutôt de l'apparence que de la réalité. Il n'est pas facile de leur persuader que l'homme est tout ce qui se trouve entre deux choses et participe de toutes les deux. S'il est composé de mal et de bien, c'est pire que l'un et meilleur que l'autre. Que s'il est composé de deux biens qui ne tendent pas au même but, il est moins bon que chacun des deux pris à part pour la fin qu'il se propose. Et que s'il est composé de deux mots qui ne tendent pas au même but, et s'il se trouve entre les deux, il sera meilleur que chacun des deux éléments dont il participe. De sorte que si la philosophie est une bonne chose, et la politique aussi, et si toutes les deux ont des fins différentes, ces gens-là, participant de l'une et de l'autre, et étant entre les deux, ne disent rien de bon, et ne valent ni les philosophes ni les politiques. Que si la philosophie est un bien et la politique un mal, ils sont meilleurs que les uns mais pires que les autres. Il faut que ce soit deux mots et c'est alors seulement qu'ils auront raison. Or, je ne crois pas qu'ils avancent que la philosophie et la politique soient deux mots, ni que l'un soit un mal et l'autre un bien. Ceux donc qui participent de toutes les deux leur sont inférieurs en ce qui fait la valeur du philosophe et du politique. Ils sont de fait les troisièmes et cependant ils tâchent de se mettre les premiers. Il faut bien avoir de l'indulgence pour leurs prétentions et ne pas s'en cacher. Mais aussi, il ne faut pas les estimer plus qu'ils ne méritent. Car il faut être content de tout homme qui s'occupe de quelque chose de raisonnable et y travaille avec ardeur. Au reste, Socrate, comme je l'ai toujours dit, je suis en peine de l'éducation de mes fils. Le cadet est encore très jeune, mais Critobule est déjà grand et a besoin d'un précepteur qui lui forme l'esprit. Toutes les fois que je m'en entretiens avec toi, je demeure persuadée que c'est folie de songer pour ses enfants à tant de choses. Par exemple, en se mariant, à leur donner une mère d'une grande famille, à les rendre aussi riches que possible et de négliger leur éducation. Mais quand je regarde ceux qui font profession d'élever la jeunesse, ils m'épouvantent. Je ne sais que faire et pour te dire la vérité, je n'en vois pas un seul qui ne me paraisse tout à fait incapable. Ainsi, je ne vois pas pourquoi je devrais pousser ce jeune homme à l'étude de la philosophie. Oh, mon cher Créton, ne sais-tu pas que dans tout, les hommes nuls et sans mérite font la majorité, et que les bons sont en petit nombre, mais dignes de notre confiance? La gymnastique, ne te paraît-elle pas bonne, ainsi que l'économie, la rhétorique et l'art militaire? Assurément. Cependant, ne vois-tu pas que la plupart de ceux qui se mêlent de César sont ridicules dans tout ce qu'ils font? Par Jupiter, tu dis la vérité. Eh bien, pour cela, renonceras-tu toi-même à ces occupations et les défendras-tu à ton fils? Il me semble que je ferai mal. Ne le fais donc pas, ô Créton. N'examine point si ceux qui font profession de la philosophie sont bons ou mauvais, mais regarde la philosophie en elle-même. Si tu la juges mauvaise, détourne-en non seulement tes fils, mais tout le reste des hommes. Si tu la trouves bonne, telle qu'elle me paraît à moi-même, toi et tes enfants, appliquez-vous-y de toutes vos forces.